Bonsoir Julien, bonsoir à vous tous.
Salut.
Vous êtes dans votre salon, votre cuisine, au bureau, dans votre auto. Vous n'en pouvez plus de vous faire assommer avec tous les détails de la météo à la minute près. La circulation, toujours pareille. Ou encore pire, les descriptions interminables du dernier froncement de sourcils du maire Labeaume. Alors à CKIA, vous êtes au bon endroit. Occupons les ondes est une émission préparée par un collectif du mouvement Occupons Québec. Nous souhaitons vous informer des moyens concrets que ce mouvement planétaire propose pour améliorer rapidement l'état de notre monde qui en a bien besoin.
C'est notre deuxième émission aujourd'hui, Luc. Et je pense qu'on, dans la dernière émission, on s'est senti un peu précipité hein, par le temps, finalement. Donc, il serait intéressant peut-être de revenir un peu, sur... ce qu'on n'a pas eu le temps de nommer.
Oui, c'est vrai, Julien, la semaine dernière, on vous a présenté un portrait général du mouvement, ses origines, ses revendications. Mais, pour être franc, on a manqué de temps, vraiment, et on a dû sacrifier deux sujets importants. Les indignés de Madrid, d'abord, qui furent les premiers en Occident à occuper l'espace public pour protester. Là-bas, en fait, ils protestent d'abord contre le taux de chômage astronomique chez les jeunes. Puis on n'a pas pu annoncer non plus comme on aurait voulu les activités de la semaine tenues par Occupons Québec. Alors, la radio a sa dictature, elle aussi, celle du chronomètre, et on a dû s'habituer, enfin, on va s'habituer et essayer de mieux gérer notre temps à l'avenir, et puis pour les sujets sacrifiés, bien, ce n'est que partie remise.
Donc, comme on l'a annoncé la semaine dernière, chaque émission traitera d'un thème particulier. Alors, pour ce qui est du thème qu'on a retenu aujourd'hui, Luc?
Oui, on va s'attarder ce soir à une des causes premières de l'indignation qui s'est répandue comme une traînée de poudre en 2011 et encore 2012 en ce moment. C'est-à-dire le système financier et plus précisément son rôle de premier plan dans la crise économique de 2008, qui malheureusement, comme tu sais, Julien, est loin d'être terminée. Alors, je vous le dis tout de suite, chers auditeurs, on ne va pas déclarer ce soir que tous les banquiers ou tous les courtiers en bourse sont des vilains ou des méchants. C'est pas du tout notre propos. En fait, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi et comment le système financier a pu être à l'origine de la pire crise économique depuis 1929. On va aussi se demander si des leçons ont été tirées de cette catastrophe encore en cours par nos gouvernements. Et puis, on va préciser ce que nous allons pouvoir faire collectivement et aussi individuellement comme citoyens pour éviter qu'une telle calamité se reproduise.
C'est vraiment pas évident, en fait, de comprendre tous les rouages de ce système financier, hein, puis ce qui conduit à une crise économique, puis aussi ses effets, finalement, comme le chômage, la fermeture d'usines, les mises à pied massives, les salaires qui baissent et, tout ce qu'on connaît, comme les coupures budgétaires là, sur les services publics. Mais, c'est ce qu'on va tenter d'élucider durant notre émission.
Tu as raison, Julien, c'est vraiment pas évident de s'y retrouver et c'est justement ce que nos chroniqueurs et notre invité, M. Robert Jasmin, vont démêler pour nous. Je te laisse nous détailler d'ailleurs le déroulement de l'émission. On commence par quoi?
D'abord, comme première chronique, nous allons tenter d'exposer les différentes facettes de ce que comporte la financiarisation du système capitaliste, tout en insistant sur ce qui cloche dans tout ça et qui conduit à des crises financières répétées, ce qui d'ailleurs est d'actualité et qui écorche tant l'Amérique que l'Europe entière, on le sait, et ma foi, toute la planète, puisque nous sommes dans l'ère de la mondialisation des marchés. Voilà ce qu'il promet. Benjamin Clich sera celui qui nous entretiendra donc sur ce sujet dans la première chronique. Ensuite, il a été mentionné, un invité de marque, M. Robert Jasmin, coprésident de l'ATAC Québec, se joindra à nous. Il abordera le rôle du système financier, plus spécifiquement dans la crise de 2008. Nous aurons également la chance de nous entretenir avec un autre invité, celui-ci, Stéphane Racine, frère de notre bien-aimé metteur en onde, à la mise en onde, Yannick, qui lui s'est déplacé de Montréal afin de nous présenter une chronique qu'il a titrée « Les banques et la dette canadienne ». Enfin, pour terminer l'heure de l'émission, à l'agenda, nous vous informerons sur ce qui se brasse dans les mouvements d'occupation, tant aux États-Unis qu'en Europe, donc à l'international, et ce, sans négliger non plus de vous informer et de vous inviter à participer à ce qui se passe plus près de nous, à Montréal, à Québec, au Québec, c'est-à-dire les événements, rassemblements, mobilisations, manifestations et autres activités. Et de vous inviter à découvrir Occupons Québec, hein, si vous ne connaissez pas, je vous l'annonce peut-être, qui est toujours actif et opérationnel. Donc voilà, pour l'instant, on ira en chanson avec Daniel Bélanger, L'échec du matériel. Maintenant, dans cette émission, nous tentons d'élucider, voire d'éclaircir le rôle du système financier actuel, que nous reconnaissons comme moteur de crise financière répétée et prévisible. Nous recevons Benjamin Clich, chroniqueur de notre projet d'occuper les ondes les mercredis entre 17h et 18h sur CKIA. Donc, salut Benjamin.
Salut.
Tu vas nous parler d'un sujet qui, ma foi, n'est pas nécessairement facile à vulgariser ni à synthétiser. Mais qui se trouve à être la financiarisation du capitalisme.
Oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement facile à synthétiser, mais on peut quand même ressortir quelques éléments essentiels pour bien comprendre. Mm-hmm. Donc, par capitalisme financier ou financiarisation du capitalisme, on entend quand même un phénomène relativement récent. Donc, le capitalisme existe depuis plusieurs siècles, là, mais le capitalisme financier, ça serait en fait qu'il y aurait une quarantaine d'années. Donc, les éléments se mettent en place surtout durant les années 70, mais c'est essentiellement durant les années 80 que là, il y a la révolution informatique qui se met en branle, donc avec Internet puis les ordinateurs.
L'avenue d'Internet qui a pris vraiment toute la place en très peu de temps.
Effectivement, et c'est l'Internet et c'est vraiment le support des marchés financiers actuels. Mm-hmm. Donc, on peut imaginer un immense réseau informatique à l'échelle planétaire et c'est par le biais des ordinateurs que les acteurs économiques vont s'échanger des produits financiers. Donc, on parle de quelque chose qui s'effectue en temps réel partout sur la planète 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment le réseau informatique qui est le support des marchés financiers. Parallèlement à ça, en fait, il y a toute l'idée de la déréglementation, donc de déréglementer le marché pour que le rende davantage libre. Donc, vraiment, c'est le postulat du libre marché. Et c'est ça, au cours des 30 dernières années, qui s'est effectué au nom de la libre circulation des capitaux. Donc, un peu, c'est vraiment, d'une certaine manière, les postulats de l'idéologie néolibérale. Là, donc, libre circulation des capitaux sans entrave, ou du moins que le moins possible. Finalement, des règles minimales, des règles de laisser-faire, qui permet aux acteurs économiques un peu de faire ce qu'ils veulent.
Et c'est entre autres un peu ce qui est décrié, là, en fait, que le capitalisme est vraiment dans une forme de dérive
par rapport exactement. À ce système-là. Oui, exactement. Il y a plusieurs penseurs, plusieurs économistes qui vont dire que le capitalisme financier, finalement, est une dérive du capitalisme, qui bafoue les valeurs fondamentales du capitalisme, de la libre entreprise ou de la liberté de son propre confort, finalement, d'accumuler un certain nombre de richesses personnelles.
Et qui est aussi, dans les occupants à travers le monde, hein, c'est ce qui est aussi revendiqué ou dénoncé, finalement, que ça n'a plus de bon sens.
Oui. Parce que c'est ça, dans les marchés financiers, qui est soumis à une certaine politique du laisser-faire, il y a le non-négligeable personnage qui se nomme le spéculateur. Donc, il y a effectivement énormément de spéculation financière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est, en fait, la spéculation financière, l'idée, c'est d'acheter et vendre des produits financiers le plus rapidement possible avec un minimum d'effort tout en maximisant le gain. Donc, c'est vraiment la logique de maximiser les profits. Et là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce qui est échangé sur les marchés financiers ne sont pas nécessairement des choses qui représentent des choses réelles.
Okay? On se perd à travers toutes les...
On se perd, effectivement. Donc, j'ai lu un peu sur Internet aujourd'hui par rapport aux produits dérivés, tout ça. Donc, les produits dérivés, c'est l'essentiel des transactions, c'est s'effectue sur les produits dérivés, comme par exemple les papiers commerciaux adossés à des actifs, tout ça. Donc, c'est vraiment un univers très complexe, mais que c'est vrai, on peut synthétiser ça en disant que ces produits-là ne représentent pas nécessairement quelque chose de très réel. Puis,
on peut penser aussi finalement qu'on est dans une forme de guerre économique, hein, qui va soit pour le pétrole ou pour d'autres produits, parce que les ressources naturelles sont un gros enjeu, hein, dans la spéculation, dans les choses qui sont échangées. Puis maintenant, c'est les plus forts l'emportent, hein, au plus fort l'emportent, c'est-à-dire les multinationales, les grosses corporations, on a un pouvoir immense.
Oui, exactement. On peut voir une certaine suprématie des marchés financiers sur le réel. Puis ça, ça se traduit notamment par un chiffre que je veux vous partager ici. C'est des chiffres que je sors de Jacques Gélina, un livre qui s'appelle « Dictionnaire critique de la globalisation » paru aux éditions Eco-Société en 2008, sur les transactions annuelles en 2007 sur les produits dérivés, donc finalement des produits financiers. Les transactions annuelles sont de 700 000 milliards de dollars US. Alors que les transactions annuelles sur les biens et services ne sont que de 40 000 milliards de dollars. Donc, on voit que il y a vraiment comme un monde parallèle. Donc, il y a l'économie réelle des biens et services. Donc, vraiment, toi et moi qui échangeons dans la vie de tous les jours. Et un monde parallèle complètement informatisé.
Et virtuel.
Et virtuel sur les taux de change et sur les produits dérivés. Et on parle environ que les transactions annuelles, un chiffre qu'il faut à peu près retenir, c'est que 5% des transactions sont sur les biens et services, donc dans l'économie réelle, alors que 95% des autres transactions sont comme dans le domaine virtuel, mais qui a quand même un effet bien réel sur le monde, comme on le voit par le biais des crises.
Parce qu'il y a des humains et des pays et des régions en arrière de tous ces chiffres-là. Donc, merci, Benjamin. Écoute, ça nous aurait servi à un peu mieux comprendre, ou du moins à camper le thème de l'émission, hein, qui est sur les systèmes financiers et leurs répercussions sur le capitalisme. Donc, on va y aller en chanson avec Stroma, une chanson « Alors on danse ». Voilà.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famille dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on dort. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus,
eh ben il y en a encore.
C'est la cible, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La,
puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Alors on danse.
Donc depuis 2008, le monde est plongé dans une crise économique sans précédent. Ce n'est pas la première à laquelle nous faisons face, évidemment, mais elle se démarque à bien des égards des précédentes. Et les contre-coups actuels, notamment en Europe, aux États-Unis, mais aussi, et ça on y pense moins, de façon encore bien plus dramatique dans les pays pauvres, sont très graves et débordent amplement la sphère économique. On a tous entendu dire que l'origine de cette crise se trouvait dans les abus et les dérapages du monde financier, mais pour vous et moi, ou monsieur et madame tout le monde, si on veut, c'est difficile de saisir les causes précises et les rouages qui nous ont jetés dans ce bourbier. Alors, pour nous aider à nous y retrouver ce soir, monsieur Robert Jasmin, ex-président d'Attaque Québec, a gentiment accepté notre invitation. ATTAC veut dire Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Fondée en 1998 à la suite d'un éditorial du Monde diplomatique qui s'intitulait « Désarmer les marchés », elle veut, cette association, nous redonner à nous, les citoyens, le pouvoir énorme que le monde de la finance s'est accaparé dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de tous les pays. Le nom même de l'association indique déjà évidemment une des solutions clés préconisées pour y arriver, mais avant de parler solutions, je vais essayer de bien cerner le problème avec M. Jasmin. Alors, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup entendu dire que la crise de 2008, donc, et qui perdure aujourd'hui, a été causée par le système financier. D'abord, est-ce que c'est exact et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça?
Bien, d'abord, je pense que fondamentalement, là, il faut faire une distinction. Pour nous savoir que le capitalisme a changé radicalement de nature. Surtout depuis les années 70, 80 particulièrement. Le capitalisme était au 19e, puis toute une grande partie du 20e, était essentiellement un capitalisme industriel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a le sens des affaires de l'entreprise va initier une usine quelque part, va aller à la banque, demander de l'argent pour pouvoir agrandir l'usine et prospérer. Ça, c'était le capitalisme industriel. Bon quelquefois, mauvais souvent. Et Et c'était quand même assez stable dans la mesure où c'était de l'économie réelle. Si je prenais de l'argent et je le transformais en machine, je le transformais en emploi, je le transformais en service ou en bien. Donc, c'est comme ça qu'on dit que c'était un capitalisme d'économie réelle.
Et ce n'est plus comme ça aujourd'hui?
Alors, il y avait une partie qui était spéculative virtuelle. Dans les 12 à 15 % dans les années 50-60, là, il y avait une partie qui était spéculative. Mais ce qui dominait, c'était l'économie réelle. Maintenant, et c'est ça qui était peurant, c'est exactement l'inverse.
Alors,
il y a à peine 15 % d'économie réelle et le reste de l'économie est purement virtuel. C'est des bulles, c'est de la spéculation. Et quand j'achète, je donne un exemple bien concret. Quand j'achète des livres sterling pour spéculer sur les livres sterling, j'ai créé aucun emploi, aucun bien, aucun service. J'ai pris de l'argent pour acheter de l'argent, pour faire de l'argent. On est dans le symbolique tout le temps.
Donc, la proportion s'est carrément inversée du réel au virtuel.
Oui.
C'est comme s'il y avait eu une révolution, mais une révolution non pas souhaitée par la population, mais par qui? Le fameux 1%?
Bon, en fait, oui, le fameux 1%, c'était les gens qui faisaient beaucoup de profits avec les changements technologiques dans les années 60 et qui se voyaient empêchés par une réglementation qui avait été créée tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Pour éviter qu'on retourne vers cette fameuse crise. Donc, on a dit, on va mettre des garde-fous. Mais petit à petit, à partir des années 70, les néolibéraux, qui est une école d'économistes qui voulait que tout soit au marché et que l'État disparaisse à toute fin pratique du décor, ont détricoté les accords qui ont permis une réglementation puis une économie relativement stable. Et à partir du moment où, par exemple, une banque, et là, on tombe dans le capitalisme financier, à partir du moment où une banque peut faire autre chose que simplement gérer l'épargne, mais qu'elle peut faire de la spéculation, qu'elle peut faire, qu'a tous les pouvoirs, elle peut jouer avec notre argent. Donc, la même façon que le propriétaire ou la famille qui avait une grande entreprise, à un moment donné, va s'en aller dans le domaine des actions, va émettre des actions publiques. Bon, bien, si on émet des actions publiques, tôt ou tard, les institutions financières vont vouloir les acheter. Et c'est là qu'on devient financier. Et c'est là que le patron n'a plus de contrôle sur son entreprise, donc sur la réalité.
Donc, une révolution à l'envers qui n'est ni, non pas seulement pas souhaitée par la population, mais qui se fait au détriment de cette population et qui est donc au profit de cette fameuse classe financière. On va prendre une petite pause déjà pour écouter la chanson Occupy Wall Street, c'est dans le thème, avec le groupe Tokyo Overtimes.
Now comes the time to occupy. Stop looking for a reason why. So many people us have tried, but now's the time to open eyes. The worldwide needs to disobey when leaders seem to lead the way. Let's find a place with 99 and he's alone, how can he fight? Let's camp here, we all need exchange. We all have common arguments. Our causes are so urgent. Our dreams won't wait for them to wake. There's no escape for abusers. Losing control every day. Modern capitalism is a whore. You can't evict an idea, its time has come. You can't defeat. Tonight is time has come. The message is the return. There's not a word that you can change. Your mind sticks are a bullet marks. Your attack speed are growing strength. You can't defeat. Tonight is time has come. Come. You can't defeat the ideas, time has come. Now you can.
Toujours à l'émission, Occupons les ondes avec notre invité, M. Robert Jasmin. On parle donc de cette problématique du système financier. Et ce que j'en comprends pour l'instant, c'est que c'est la déréglementation du secteur qui a pu amener les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que la solution, donc, passerait par un retour à un rôle de l'État plus important, à une réglementation, si je peux dire?
Je dirais même plus, comme dirait les Dupont. Il faudrait que l'État redevienne l'État. C'est-à-dire, c'est l'instrument collectif qu'on a entre les mains, nous les citoyens, pour faire des réglementations. Donc oui, il faut faire des réglementations, mais encore faut-il décider qu'on reprend le contrôle. Parce qu'actuellement, les États sont dirigés par la finance. Et ce qui s'est passé à Wall Street, c'était une révolte contre cet État qui n'est plus démocratique. Donc, la réglementation, c'est bien sûr, et il faudrait qu'elle soit extrêmement serrée, sévère et en profondeur.
Et il faut que la population la réclame, puisqu'actuellement, comme vous dites, les gens du politique sont eux-mêmes du milieu financier. Gros problème.
Oui, mais surtout au sein de l'Empire, là, aux États-Unis.
Tout à fait. Maintenant, vous, votre groupe ATTAC, dont vous étiez président, propose comme solution une taxation des transactions financières, une des solutions. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement?
Oui, mais actuellement... Le commun des mortels, vous et moi, à chaque fois qu'on fait une transaction, on paye une taxe. Quand on achète un bien, on paye une taxe.
Tout à fait.
Mais ces gens-là vont spéculer sur des monnaies et par des centaines de milliards par jour de transactions. Et à chaque fois, il n'y a pas un sou de taxation de payer. Il s'agirait de prendre un dixième de 1%. Avec tous ces milliards qui sont échangés chaque jour, et on pourrait, en un an, tripler l'aide actuelle des pays riches aux pays pauvres, uniquement par cette taxe.
Un dixième de 1%, alors que nous, on paye 15% pour notre bouteille d'eau,
oui.
Et eux ne payent pas encore ça.
Donc, on ne trouve pas qu'on exagère, là. Mm-hmm. Mais sauf que le montant total serait énorme, énorme. Alors ça, c'est une des solutions. Et il y a 10-12 ans, quand on en a fait la promotion, les gens nous disaient qu'on était utopistes, que jamais on réussirait parce qu'on s'attaquait à Goliath. Mais là, c'est des chefs d'État. Il y en a juste un en Europe actuellement qui refuse ça, c'est celui, le conservateur d'Angleterre. Mais l'ensemble des dirigeants européens sont d'accord avec la taxe. sur les transactions financières.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que si certains pays mettent en place cette taxe et d'autres non, que les pays qui la mettent en place voient les capitaux et les investisseurs s'enfuir vers les autres?
Oui, c'est évident, puis c'est une taxe qui doit être mondiale. Ça, c'est bien sûr. Mais il faut dire qu'actuellement, il y a une taxe en France qui est une taxation sur certaines transactions internationales. Il y en a eu une au Chili, et c'est des choses faisables à petite échelle, mais évidemment, ça passe par les Nations Unies éventuellement, ou l'Organisation mondiale du commerce, mais il ne faut pas attendre trop d'espoir de ce côté-là.
D'accord. Dans ce portrait un peu sombre, il faut bien dire que vous nous tracez, comment nous, comme simples citoyens, est-ce qu'il y a des moyens pour agir, pour essayer de faire en sorte que ces systèmes s'établissent?
Bien, oui. Bien, c'est sûr que les pressions politiques sont importantes. Mais si on considère, par exemple, juste au quotidien, chaque personne a un compte en banque ou dans une caisse. Mais si quelqu'un a un compte dans une grande banque canadienne actuellement, il se fait complice d'un vol systématique du bien commun par les banques qui ont des comptes dans les paradis fiscaux, qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et tant que les banques et tant que les gouvernements permettront aux banques d'avoir de telles filiales, et ça, par une loi, on pourrait l'interdire complètement. Et c'est ce que la France veut faire actuellement. Et c'est au programme. Le candidat socialiste en France a dit qu'il allait interdire à toute banque française d'avoir des filiales ou des succursales dans les paradis fiscaux. Bon, alors, si moi j'ai un compte en banque, la première chose à faire, c'est de le retirer de cette banque et de le placer dans une coopérative comme les Caisses des Jardins, parce que les Caisses des Jardins n'ont aucune filiale, aucune succursale dans les paradis fiscaux.
Ah, ben voilà un moyen très simple et qui prend quelques minutes. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle, parce que peut-être naïve, mais enfin, l'imagerie populaire veut qu'un spéculateur en bourse puisse faire 1 000 fois, 10 000 fois, certains disent jusqu'à 1 million de fois mon salaire annuel avec un clic de souris en une fraction de seconde, et par la même occasion mettre des entreprises en danger, parce que à court de capitaux, tout d'un coup. Donc, est-ce que ça, c'est un mythe, une exagération incroyable, ou le reflet d'une certaine réalité?
Ben, je vais vous donner l'exemple le plus classique. 1992, George Soros, en 24 heures, a gagné 1 milliard. Mmh. Aujourd'hui, il en vaut 42 ou 43. Là, je ne sais plus quel est son rang sur le palmarès des 10 plus riches, mais cet investisseur a simplement casser la Banque d'Angleterre en spéculant sur sa propre monnaie, parce que Soros, à l'époque, était anglais. Donc, vous voyez, ça, c'est le cas extrême. Mais tous les jours, vous avez des fermetures d'entreprises qui sont décidées par des gens qui n'ont aucun lien avec l'entreprise, mais qui décident parce qu'ils veulent avoir le profit maximal et non pas raisonnable. Ils vont déplacer leurs billes au gré du taux de profit des entreprises. C'est comme ça qu'on a assisté à la délocalisation. Et c'est comme ça qu'on peut conclure qu'on est, on est dans la crise qu'on vit, parce que justement, ce sont des financiers, ce ne sont plus des industriels. Les industriels peuvent avoir un lien avec leur milieu, mais un financier, c'est complètement anonyme. Quand il déplace ses capitaux, il ne voit pas les familles, il ne voit pas les suicides, les dépressions, les séparations qui sont le résultat de son geste. C'est pour ça que nous, en TAC, on a toujours dit qu'il fallait un tribunal international pour juger les crimes économiques contre l'humanité. Parce qu'on peut tuer des gens autrement que par des bombes. Et ces gens-là en tuent tous les jours.
Et en plus, ils sont totalement improductifs.
Alors, les spéculateurs ne créent rien.
Voilà.
Ne créent rien.
Et ce sont les plus riches.
Et ils prétendent avoir droit à leurs milliards parce qu'ils travaillent. puis en plus, ils disent qu'ils sont créateurs d'emplois, alors que c'est zéro emploi qu'ils créent.
Bon, ils travaillent, on peut s'entendre qu'un clic de souris, c'est pas trop fatigant. Pour gagner 1 milliard de fois mon salaire annuel, j'avoue qu'il y a de la frustration un peu à entendre ça. Mais ce qui est positif dans vos propos, et je le retiens, c'est que moi, demain matin, je suis déjà dans une coopérative, mais nos auditeurs demain matin qui sont dans des banques canadiennes peuvent déplacer tout simplement leur compte dans un tout à fait similaire, mais dans une coopérative qui lui remettra par ristourne une partie de ses profits au lieu de les envoyer dans les Caraïbes ou dans d'autres paradis fiscaux. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que tout simple et très concret.
Oui.
Merci beaucoup, M. Jasmin, d'avoir accepté notre invitation. C'était passionnant.
C'était un plaisir.
Merci bien. On va y aller en musique avec Mon oncle Serge, et La Chute. Avec Félix Leclerc-Lancan.
Approchez, messieurs, dames, une belle petite rivière à saumon avant prochain. Pleine de beaux petits saumons qui viennent frayer ici depuis des siècles. Avant, avec des îles, du bois, des chutes, sur une centaine de milles sans compter les proches. Laissons pas les sauts du jour. I'll take it.
Tiens, un Américain. C'est légal, il est dans son droit. Une fois, deux fois, trois fois, vendu. Installez-vous, monsieur.
Approchez, messieurs, dames. Une belle petite université française avant. 6 étages d'instruction, latin et grec compris. Avec ferme expérimentale, laboratoire, bibliothèque. L'article rêvé pour les fils d'immigrants qui veulent parler français au Canada. Laissons pas les sons du autre.
I'll take it.
Vendu.
Approchez, messieurs, dames, une belle petite nappe d'huile fémère, tricotée par les siècles, 800 milliards de beaux petits barils d'huile, pour faire du gaz, de la chimie, du plastique, du pétrole, même que le gouvernement va vous tanner un chemin pour vous y rendre.
I'll take it.
Mais c'est le même qui a financé l'électricité chez nous. Ah, c'est pas lui qui va arrêter ses moteurs.
Approchez, messieurs, dames. Dernier item est de poids. Une belle, grosse, jeune ville neuve, dynamique. Avec rue souterraine, métro, banque, oasis, employés obéissants pas cher, vieille maison historique à démolir, classe dernière garantie. Laissons pas les sons du jour.
Hey.
Oui.
It's already sold.
Vendu, range sur la peau.
Approchez, messieurs, dames.
Mais il ne me reste plus rien à vendre. Keep away, private, members only. Ah, il ne faut pas que mon histoire finisse là.
Toujours à l'émission Occupons les ondes à l'antenne de CKIA 88,3 FM. Maintenant, de vous présenter, chers auditeurs, auditrices, un indigné qui a fait la route de Montréal à Québec en ces conditions de route, ma foi, qui n'ont pas été faciles. Bonjour, Stéphane Racine.
Bonjour. J'avoue que c'était pas facile. J'ai eu des voyages un petit peu plus... simple, mais ça a bien été quand même.
Ça a bien été. Donc aujourd'hui, ta chronique va porter sur les banques et la dette au Canada.
Oui, les banques et la dette au Canada pour essayer de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec la dette et qu'est-ce qui se passe avec les banques. Pour commencer, il faudrait juste mettre un concept au clair, c'est le concept de masse monétaire. Donc, dans un système économique, il y a une quantité limitée d'argent. Cette quantité limitée d'argent-là peut être augmenter ou diminuer. C'est rarement diminué, mais elle peut être augmentée par deux façons. Soit les banques centrales qui font de l'argent, qui décident de donner au gouvernement par des plusieurs moyens, ou les banques privées qui prêtent aux emprunteurs, dans le fond, c'est de la créance. Fait que c'est vraiment ce système-là qui est le système de réserve fractionnaire. Vous pouvez vérifier puis approfondir sur le système de réserve fractionnaire, mais c'est vraiment le système qui est en place. Donc, quand on entend que si tout le monde retirait l'argent des banques, ça créerait un problème. En réalité, c'est pas faux, parce que c'est comme ça que le système fonctionne.
Et c'est quelque chose, je pense, que les mouvements d'occupants, aux États-Unis, je pense qu'il y a un de ces coups organisés de retirer leur argent à une banque, qui ont créé des difficultés à une banque comme ça, je pense.
Ouais, donc, c'est sûr que ça peut être problématique pour les banques, parce que une banque, dans le fond, dans le système à réserve fractionnaire, ça prend un minimum, puis après ça peut prêter de l'argent. Mm-hmm. Plus ça prête de l'argent, évidemment, plus ça fait des intérêts, mais aussi, plus il y a de l'argent prêté, plus la masse monétaire augmente. Okay. En faisant augmenter la masse monétaire, l'économie, elle, continue à évoluer, la masse monétaire continue à augmenter. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas trop d'inflation, pas de déflation, que le système fonctionne bien. Mm-hmm. Le rôle de la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, c'est de s'assurer de mettre un taux directeur qui va soit influencer les banques à prêter de l'argent ou un peu freiner l'emprunt. C'est sûr qu'avec un taux d'intérêt à 20 %, c'est assez prohibitif. Le monde va plus déposer de l'argent, donc faire diminuer un peu la masse monétaire. Puis avec un taux d'intérêt comme on voit présentement à 2 %, bien là, c'est sûr que ça influence le monde à plus emprunter. Sauf que il y a une limite à ça. Puis c'est la Banque centrale qui va donner de l'argent, dans le fond, prêter de l'argent aux banques privées pour qu'eux puissent continuer
à opérer,
c'est ça. Fait que le problème de la dette, dans le fond, du Canada, puis de la dette des pays industrialisés, c'est vraiment ça. C'est que il y a une dette qui s'accumule, puis il n'y a pas assez d'argent, dans le fond, pour la remettre. C'est que plus il y a d'argent qui est créé par la dette, moins c'est possible de la remettre en remettant l'argent, dans le fond, parce que l'argent n'existe pas nécessairement réellement.
Parce qu'en fait, elle est comme virtuelle, c'est ce qu'on dit. Hein? C'est souvent, ça part dans les marchés de spéculation et tout ça. Donc.
C'est de l'argent virtuel. Puis ce qui, d'après moi, à mon sens, ferait beaucoup plus de sens, au lieu de donner complètement l'autorité, dans le fond, aux banques de créer l'argent comme ils veulent, dépendamment des taux d'intérêt, ça serait important qu'il y ait un apport des banques centrales pour que ça soit balancé. C'est sûr que une monnaie qui est créée juste artificiellement par les prêts, ça peut devenir problématique parce que aussitôt qu'on rembourse dans le fond nos prêts, cette monnaie-là, elle n'existe plus. Si on refait d'autres prêts, là, on recrée la nouvelle monnaie, tandis que si la Banque centrale crée sa propre monnaie, elle crée déjà sa propre monnaie, mais ajouter un apport supplémentaire de monnaie dans le système, c'est sûr que ça serait plus simple, ça stabiliserait le système. Puis en plus, on pourrait tranquillement payer la dette des États avec l'argent qui est créé de cette façon-là. Puis les États, au lieu de remettre leurs prêts, dans le fond, payer les intérêts aux banques privées pour les payer aux banques centrales. Donc, si au Canada, disons qu'on a une dette de 800 ou 500 milliards, dépendamment de ce qu'on calcule, brut ou net, les intérêts de tout ça, il y en a une partie qu'on pourrait prendre, puis juste les repayer à nous-mêmes. Parce que la Banque du Canada, contrairement à dans certains autres pays, elle appartient au gouvernement du Canada.
Donc, au lieu de laisser, en fait, les banques privées un peu, ça stabiliserait, en fait, le marché, puis ça nous profiterait davantage à nous en tant que Canadiens ou en tant que pays.
Ça pourrait nous profiter parce qu'on entend souvent, de la gauche comme de la droite, qu'il y a une grosse dette au Canada, au Québec, que là, c'est problématique parce que ça enlève de l'argent pour les programmes sociaux et tout ça. Sauf que cette dette-là, c'est de l'argent que le Canada a prêté probablement aux banques pour que les banques leur prêtent au Canada. Fait que dans le fond, la Banque du Canada, qui appartient au Canada, prête de l'argent aux banques. Les banques leur prêtent souvent au gouvernement. Donc, il y a un intérêt qui est calculé, de l'argent qui est créé. Puis avec ce système-là, on paye de l'intérêt pour rien. Dans le fond, c'est comme si on subventionnait les banques en leur payant un intérêt qui fait pas de sens.
J'en parlais justement hier avec notre réalisatrice qu'on perd dans cette équation-là un certain nombre de pourcentages, en tout cas sur ces échanges-là. Puis c'est ma foi aussi, c'est ce qu'ils vont souvent utiliser. Là, on est en période de récession, de dette, de crise. Puis là, ils vont tout passer sur le dos de la crise pour essayer de faire des coupures budgétaires et tout ça. Ou sinon, d'aller investir dans l'armement ou dans d'autres choses. Hein. Des fois, on a de la misère à les suivre.
Ben oui, on a de la misère à les suivre. Puis il faut se demander aussi pourquoi que le système Et comme ça, pourquoi, dans le fond, que la Banque du Canada prête aux banques privées pour aller emprunter? Puis je dis pas de tout enlever les, mm-hmm. les prêts. C'est sûr qu'il y a, il y a certains prêts de la banque, dans le fond, qui est au particulier parce que c'est de l'épargne de tout le monde, dans le fond. Mm-hmm. Sauf qu'il y a une grande partie des intérêts qu'on paie, qu'on les paie pour pas grand-chose, en fait, juste parce que le système est en place. Puis que c'est de même que ça fonctionne, sauf que je pense que ça serait à remettre en question.
Donc, il y aurait probablement un travail pour les économistes de ce monde ou nos gouvernements d'être un peu plus stratégiques dans toutes ces choses-là. Mais j'imagine que vu que c'est dans une fête de globalisation puis de mondialisation, ça ne doit pas être facile non plus de prendre ce genre d'initiative. Mais bon, en tout cas, c'est le fun que tu sois venu nous parler de tout ça. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Puis, eh bien, je l'espère à une prochaine. Maintenant, on va aller en chanson avec Richard Desjardins, avec sa chanson « Développement durable ».
Après, je me suis perdu dans les chemins de compagnie, prenant bas par de vue, bel job que je me suis dit. Voilà que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC, j'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. Qui c'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le grain, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse, si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi, tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants, puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Oui, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, ton gang, d'où c'est que tu viens? J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Moi, j'en vois pas de problème, ce qui d'aussi doux qu'un trou. J'suis dans le club des bains, même des fiumes pis bain de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau à deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre Paris qui est deux. Laisse-moi pas tout seul avec un écolo, une coupe de claque sa gueule, pis ça va faire de l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours, il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse pédale. Je suis même plus capable de me voir le bout de la graine. Je suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la top la FTQ.
C'est le temps de vous donner quelques nouvelles du mouvement Occupons à travers le monde. Cette semaine, le site occupytogether.org nous signale que 1576 villes dans le monde étaient rapportées comme ayant eu des activités récentes du mouvement Occupy, évidemment. Je n'ai pas le temps de vous en mentionner, mais c'est très, très, elles sont très nombreuses, ces villes, donc, qui ont encore des activités comme la nôtre. Je vous mentionne une activité d'envergure nationale aux États-Unis. Cette semaine, plusieurs manifestations sont prévues vendredi 3 février, notamment à Dallas, au Texas, et partout aux États-Unis pour protester contre le National Defense Authorization Act, signé récemment par le président Obama. C'est une loi qui autorise la détention d'une durée indéfinie, sans procès, de personnes non seulement sur le sol américain, mais aussi ailleurs dans le monde, donc c'est très grave, et le mouvement Occupy, bien, va essayer d'attirer l'attention des populations sur ce point. On reviendra une autre fois sur la prochaine grande manifestation mondiale qui aura lieu le 12 mai prochain et qui s'annonce comme la plus immense que le mouvement ait organisée à ce jour. C'est 3 jours après cette action que débute le G8 à Chicago. Alors, là-dessus, Julien va nous expliquer ce qui s'en vient à Québec.
Ben donc, c'est ça, pour y aller avec à l'agenda de la semaine, comme on va vous faire à chaque semaine, chers auditeurs. Donc, tout d'abord, je vous invite à découvrir un outil qui, moi, m'apparaît fort intéressant et que j'ai découvert dernièrement. En fait, pour être branché sur les différentes initiatives citoyennes en ce qui a trait à la démocratie en action, je parle ici d'un site Internet vraiment génial produit par le réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches, qui se trouve à être un média calendrier de la démocratie en action à l'adresse toute simple www.réseauforum.org. J'ai dit réseau, mais ça prend pas d'accent aigu sur le E, hein, évidemment. Donc, dès ce soir aussi à l'agenda, je vous rappelle qu'à compter de 19h, il y aura une conférence bénéfice de dénonciation en lien avec les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, un dossier controversé et d'actualité, organisé par la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique à la salle Michel Jordan du Centre culture et environnement Frédéric Bach au 870 rue Salaberry. Cette même coalition nous invite le dimanche 5 février, dès 13h, à se présenter devant l'esplanade de l'Assemblée nationale pour manifester nos préoccupations et nos indignations face à la façon dont Hydro-Québec et le gouvernement traitent ce dossier qui m'apparaît sérieux et non sans danger, en fait, pour la population puis la santé publique. Donc voilà, également, je vous rappelle que le samedi 4 février à Montréal, cette fois-ci, aura lieu une manifestation d'envergure organisée par le FRAPRU concernant la précarité qui plane au-dessus du dossier des logements sociaux. L'événement manifestation s'intitule Charest-Bachan, ça prend 50 000 logements. Pour plus d'informations, visitez le site du FRAPRU et de vous rappeler également la possibilité qu'avec le comité citoyen et citoyenne du quartier Saint-Sauveur, on peut, nous, de citoyens de Québec, avoir l'occasion d'avoir un transport par autobus. Donc, pour les réservations, d'abord, c'est gratuit. Au 418-529-6158, comité citoyen et citoyenne du quartier Saint-Sauveur, voilà. Maintenant, une autre activité intéressante, les mercredis agités qui vont se tenir, en fait, aux deux mercredis. Je vous laisse vous informer sur le site Internet www.agité.org. En fait, ça va être un programme bimensuel qui s'intitule, qui a comme thème « Pas dans ma cour ». Alors, c'est des conférences, débats et assemblées publiques qui aborderont différents sujets qui, bon, peuvent être controversés ou, en fait, qu'on ne veut pas avoir nécessairement dans notre cour. Hein. Voilà, puis... ce jeudi 6 février au Cercle aussi, au Resto-Bar rue Saint-Joseph-S, dans le cadre du Off Carnaval, une soirée de projection de court-métrage intitulée « Prends sa cour, Québec Gold 2011 » nous présente une sélection de 9 courts-métrages les plus remarqués de la dernière année, donc de 2011, une occasion de voir ou revoir des courts-métrages comme « Aura » ou « Hope » ou disons en tout cas des je sais là par expérience parce qu'en fait j'ai vu certains de ces reportages et de courts-métrages, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Finalement, une exposition aussi, vous vous renseignerez à l'Université Laval le 7 février, du 7 au 9 février prochain. C'est sur le printemps arabe, voilà, ça va être en images. On va pouvoir avoir l'occasion de voir le printemps arabe, l'insurrection pour la liberté. Maintenant, je termine juste en vous disant... d'aller visiter, hein, n'oubliez pas, occuponsquebec.org, qui est toujours actif et qui a besoin d'implication, ma foi, parce qu'il y a des projets à prendre en charge. Donc, je passe
Beaucoup
d'activités. Je passe la parole à Luc là, pour terminer ça.
Oui, bien, j'ai le plaisir de vous présenter l'émission d'Occupons les ondes à la recherche Simon-Pierre Michaud-Blais, Charles-Eugène Bergeron et Michel O'Neill, à la mise en ondes et au choix musical Yannick Racine, Benjamin Clich et Stéphane Racine ont été nos chroniqueurs aujourd'hui. Et à la réalisation, la toujours souriante Marie-Hélène Demel. Julien Lapierre et moi-même, Luc Roland-Brunard, avons le plaisir d'animer ensemble cette émission. Notre rendez-vous est hebdomadaire. Nous souhaitons vous retrouver mercredi prochain à 17h sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Avant de vous laisser, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui était M. Robert Jasmin, ex-président d'Attac Québec, et qu'il nous a entretenu de l'énorme impact du système financier tel qu'il fonctionne actuellement sur nos vies individuelles et collectives nationales. Alors, je vous invite à consulter, bien sûr, le site d'Attac, A-T-T-A-C, Attac Québec, Attac France aussi, qui a des milliers de pages, me dit-on, en français, sur les sujets qui nous ont intéressés ce soir. Et parmi mille et une autres sources d'informations, j'aimerais vous mentionner le tout dernier livre d'Alain Deneau, l'auteur de Noir Canada. Son titre est « Faire l'économie de la haine », tout fraîchement sorti des presses chez Éco-Société, sous-titre « 12 essais pour une pensée critique ». Et il y explique entre autres le phénomène des paradis fiscaux que M. Jasmin a évoqué rapidement tout à l'heure, où serait englouti, dit-il, la moitié de l'argent disponible sur la planète. C'est énorme, à l'abri de tout contrôle et évidemment exempt de toute contribution au bien commun, donc nos systèmes de santé, entre autres, et d'éducation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La semaine prochaine, nous aborderons ensemble un sujet qui vous concerne très directement, à savoir le rôle politique du citoyen éclairé. Vous êtes peut-être comme moi, souvent en train de vous demander, devant certains constats assez désolants sur l'état de notre monde, de notre société, ce que nous pourrions faire bien concrètement. On a eu un exemple formidable ce soir. C'est à cette question urgente et complexe que nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et vous laisse en musique en compagnie de Paul Carniello et sa chanson « Qui va changer le monde ». Et ne quittez pas les ondes de CKIA 88,3. L'émission « Mes amis de filles » suit tout de suite après la pause musicale. Merci, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.
Changer le monde.